Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver après un long été, voilà, qui fut très mouvementé, et donc nous allons ensemble égrener quelques marqueurs importants donc, pour cette news de rentrée. Alors, nous sommes très tôt cette année, nous avons vécu d'intenses canicules en juin et en août, et contrairement à ce que peut en dire Trump, eh bien, elle nous sensibilise de plus en plus au réchauffement climatique. Il y a eu 2300 morts qui ont été dus aux fortes chaleurs entre le 23 juin et le 2 juillet 2025. Et en Europe, 1500 se concentrent sur 12 grandes villes européennes, dont Paris, Londres, Milan et Lisbonne. Le réchauffement climatique a donc fait tripler le nombre de morts liées à la canicule précoce qu'a connue l'Europe. Les villes et les centres urbains sont des zones à au risque de chaleur, et il va falloir augmenter le nombre d'espaces verts et améliorer l'isolation des logements. À ce sujet, on notera justement des bouleversements qui viennent d'être vécus par certains sur le plan de la prime Rénov'. Fini le financement de la rénovation par isolation des murs extérieurs et intérieurs, et ça c'est dommage, car cette mesure avait prouvé son efficacité. Par contre, les chaudières biomasse ne seront plus financées, et ça, c'est une bonne nouvelle. D'abord parce que la biomasse est précieuse. Cette matière organique d'origine végétale ou animale était devenue la tarte à la crème des solutions climat. Principale source d'énergie renouvelable dans le monde, partout, pour tout, son usage était conseillé. La chaleur, l'électricité, les carburants, à tel point qu'une forêt entrer dans au moins 3 usages possibles. Or, prôner la biomasse, c'est encourager la déforestation, sauf bien sûr à utiliser des plantations faites pour être brûlées. Un peu partout dans le monde se sont élevées des voix sur l'usage inconsidéré de la biomasse, et on rappela qu'elle finirait par manquer au renouvellement de nos sols. Malgré cela, l'usage en restait bien noté par l'ADEME. Et finalement, c'est du côté médical d'une alarme de l'OMS que vint le coup de frein. Outre les impacts environnementaux, la biomasse avait des impacts sanitaires. C'est un redoutable polluant atmosphérique par l'émission des particules fines. À Londres, par exemple, la municipalité constatait que le retour des feux dans les appartements rajoutait 17% de particules là où l'effort sur les transports les avait fait reculer. 7% seulement des gens pensent que c'est dangereux de brûler du bois et beaucoup ne savent pas régler la ventilation de leur foyer. L'autre grande news de l'été, c'est bien sûr la mobilisation contre la loi du plomb. Une loi favorable à l'agriculture intensive, autorisant des dérogations pour l'acétamitride, un pesticide toxique, facilitant l'agrandissement des bâtiments d'élevage, les projets de mégabassines, etc. Une pétition demandant son abrogation a recueilli en quelques jours plus de 2 millions de signatures. Et malgré cette mobilisation, la loi a été promulguée le 12 août 2025. Mais son article le plus controversé sur la réintroduction de l'acétamitride, ce pesticide chéri des producteurs de betteraves, a lui disparu. L'autre coup de tonnerre dans la sphère politique, c'est le 23 juillet. La Cour internationale de justice, organe judiciaire des Nations unies, rend un avis adopté à l'unanimité des juges. Les États qui subventionnent des énergies fossiles pourront être jugés. Cela répond directement aux États-Unis qui viennent de se retirer de l'accord de Paris. La Cour rappellera que des engagements ont été pris durant 30 ans et qu'ils doivent être respectés. Et puis la Cour ne se contente pas de rappeler aux États qu'il faut réduire les émissions. Il faut prendre des mesures appropriées concernant la production d'énergie fossile. Et surtout, il ne faut plus octroyer aux fossiles de subventions publiques. Il ne s'agit donc pas seulement de se retirer de l'accord de Paris pour s'exonérer de toute action climatique. Un séisme juridique qui pallie les défaillances du politique. Enfin, pour couronner cet été particulièrement mouvementé, on notera le méga-feu des Corbières. En pleine canicule, à Houssienne, le feu, dont on pense qu'il serait dû à des actes volontaires, a ravagé 17 000 hectares et mobilisé plus de 1 300 pompiers. Plus important que celui qui ravagea les Landes il y a 2 ans, il marque l'entrée dans un risque grandissant pour le pourtour de la Méditerranée, de l'Espagne à la Grèce, en passant par la France et l'Italie. L'Europe réfléchit à la création d'une armée du feu européenne. Nous reviendrons longuement sur ce sujet en 2026. Au-delà du bilan immédiat concernant les hectares ravagés et les pertes matérielles qui nous ont été données, nous connaîtrons alors les effets de long terme de ces incendies sur les sols, mais aussi sur la faune et la flore. Montpellier espérait encore être capitale de la culture quand l'association M28 a commencé l'aventure collective des chemins du vivant. Réjouissons-nous, car la mise financière qui fut attribuée en 2024 perdure aujourd'hui. Bref, qu'est-ce que c'est que ces chemins du vivant ? Ils se déroulent du 26 septembre au 5 octobre, 10 jours de manifestations artistiques, de fêtes à découvrir tout autour de Montpellier, en 80 lieux autour de 7 points. Le château Lorenz à Agde, le chai de Desmoulins à Sète, l'abbaye d'Ariane, les sources du Lez, la Mousson, le canal de Lunel, la Sana au Gros du Roi. Il mélange les disciplines et les regards. Tout a commencé lundi 29 septembre par l'action de 2030 Microfestival. Chacun était invité à débitumer une zone du bois de Montmort en face du zoo. Quand vous entendrez cette émission, il vous restera 2 jours de possibles découvertes avec au Gros du Roi la parole des habitants qui sera recueillie afin de faire revivre la mémoire de l'ancien sanatorium reconverti en tiers-lieu, le Sana. Autre nouvelle qui a marqué l'été, eh bien, elle avait commencé finalement en 2024. En 2024, la convention sur les plastiques à Busan, en Corée, s'était achevée sur un échec. Les producteurs, la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Iran, le Koweït, enfin tous les producteurs de pétrole et les géants de la pétrochimie, avaient refusé de s'engager sur une baisse de leur production, conduisant forcément à une augmentation des tonnages. Pour rappel, la pollution plastique est considérée comme la plus importante du XXIe siècle. Et entre 1950 et 2020, selon l'OCDE, la production de plastique a été multipliée par 220. Et on pense qu'elle passera à 600 en 2050. Il représente donc une nuisance inédite, car ces produits, à la chimie complexe, se dégradent en paillettes, en microbilles, les larmes de sirènes, en mini-particules, 70 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Les 4 et 5 août 2025, donc, ont repris les négociations à Genève. Mais les producteurs refusent toujours la limitation de leur production et proposent de travailler sur la pétrochimie et le recyclage, ce qui, bien sûr, ne satisfait pas les pays qui sont opposés, car pour l'instant, on est en face de l'incapacité des technologies actuelles à recycler les plastiques. Ils sont tous différents, les uns des autres, trop résistants, et souvent, ils sont composés non seulement des polymères, mais d'un mélange d'additifs qui leur confère de la souplesse, de la résistance au feu, de la rigidité, de la destructibilité. Donc, sans accord sur la réduction à la source, le dossier sur le financement devient lui aussi très difficile. L'Union européenne a même refusé le financement de la collecte des déchets plastiques dans les pays en développement, chiffré en 2023 par l'OCDE à 100 milliards de dollars. La discussion à Genève s'est donc achevée sans traité contraignant, et certains observateurs ont décrit cette négociation comme une des plus difficiles depuis longtemps. Mais après tout, peut-être qu'un échec vaut mieux qu'un mauvais traité. Et dès aujourd'hui, les ONG réclament la reprise des négociations. Durant la semaine dernière, s'est tenue l'Assemblée générale de l'ONU. Donald Trump y a joué, comme d'habitude, son rôle. Il s'est permis l'inadmissible en s'octroyant une heure de prise de parole quand tout le monde respecte, bien sûr, la parole, les limites des 15 minutes. Alors, écoutons-le, et il fut volontiers décoiffant, écoutons-le comme d'habitude.
Donc, aujourd'hui, on nous parle du changement climatique. Du changement climatique et... Mais quelle que soit la situation, c'est vraiment la plus grande manipulation qui ait jamais été lancée. Et le changement climatique, vous êtes impliqué dedans avec l'interdiction des forages, l'interdiction de l'usage du charbon. Tout cela nous mène à la faillite. Ça, c'est mauvais, c'est vraiment, ça a été décidé par de mauvais dirigeants. C'est un scam, c'est un scandale. Durant la campagne présidentielle, certains disaient que Trump avait raison sur tout. Et je ne dirais pas vraiment ça. J'ai été, oui, c'est vrai, quand même. J'avais raison sur tout, je peux le dire. Mais je dénonce le scandale de l'énergie verte.
Enfin, bref, ce fut en tout cas pour l'occasion pour 100 chefs d'État de rappeler leurs engagements pris et engagements qui seront repris à la COP30 à Belém au mois de novembre et dont nous reparlerons. Le climato-scepticisme de Donald Trump donc ne passe pas encore les enceintes de l'ONU et le multilatéralisme s'y poursuit malgré les coups de boutoir américains. Alors doucement, on entre dans la période pré-municipale. Les élections municipales de 2026 à Montpellier auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Elles visent au renouvellement du conseil municipal et du conseil métropolitain de Montpellier, Méditerranée, Métropole. Alors bien sûr, l'équipe sortante de Michaël Delafosse, conformément à la loi, le 30 septembre, date à partir de laquelle les prises de parole sont comptabilisées, a présenté son bilan. Pendant son temps, le maire inaugure à tour de bras les innombrables travaux qu'il a engagés sous sa mandature, qui ont été engagés sous sa mandature. Un mandat aux promesses quasi respectées, mais avec un rappel à l'ordre de la Cour des comptes sur le choix des transports gratuits. Eh ouais, la gratuité, ça n'existe pas. Forcément, quelqu'un doit payer. L'alternative écologiste sociale et citoyenne, qui est portée par le député ELV Jean-Louis Roumégas, l'après et Génération S change de nom. Place au printemps montpelliérain. Le 4 septembre, cette coalition des forces de la gauche locale a inauguré son local de campagne situé rue Saint-Guilhem. Donc à suivre, programme et désignation de la tête de liste en attendant des débats en atelier. Philippe Sorel n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature, mais il sort de l'ombre. Il participera bien à la bataille des municipales en tant que chef de file dans l'Hérault du mouvement politique Utile, qui est issu de l'IOT. Utile a été créé en 2023, fédère une quinzaine d'organisations régionalistes, représente aujourd'hui près de 7000 adhérents et compte 11 parlementaires. Alors, centre et droite sont aussi sur le front, mais nous en parlerons un peu plus tard. Donc c'est la deuxième édition de la Biennale Euro-Africa du 6 au 12 octobre au Corum, mais aussi avec des événements dans toute la ville. S'ouvre ainsi une nouvelle ère de coopération entre l'Europe et l'Afrique, puisqu'on attend des réponses innovantes aux défis environnementaux ou des défis mondiaux liés au changement climatique, aux crises sanitaires, à la désertification, à l'accès à l'eau et qui nécessitent des solutions et des partenariats solides. L'Europe et l'Afrique, face à ces enjeux communs, peuvent renforcer leur coopération pour développer des réponses. Des plénières, des tables rondes, des stands d'exposition seront organisés dans l'objectif de faire connaître les solutions, les nouvelles technologies, les projets et les autres initiatives développées par les partenaires de la Biennale. En résumé, 2 jours de conférences au Corum, de la musique, des danses, des arts un peu partout durant toute la semaine. Tout renseignement utile sur le site Euro-Africa. Et surtout, inscrivez-vous pour le 6 octobre, parce qu'entre 14 et 15h15 seront évoqués les défis environnementaux. Enfin, je voudrais vous conseiller 2 films qui sont encore en salle. D'une bataille à l'autre et Munganga, celui qui soigne. Le premier, avec Leonardo DiCaprio, est un film d'action, une réponse explosive à l'Amérique de Trump. Le second, avec le docteur Denis Mukwege en exil, prix Nobel de la paix, revient sur les viols, armes de guerre dont sont victimes les femmes en République démocratique du Congo et dont on ne parle pas assez. Au Congo, les milices violent tout ce qui est femme, des bébés aux femmes âgées. Alors, quand les milices approchent, les habitants fuient se mettre en sécurité, abandonnant leurs terres aux milices qui font main basse sur les terres rares, notamment sur le tantal, nécessaire à la fabrication de certains composés de smartphones. Écoutons Mukwege.
Aujourd'hui, je suis à Paris pour le lancement du film Munganga. Munganga qui veut dire tout simplement médecin ou l'homme qui soigne. C'est un film fiction qui est basé sur une histoire réelle racontée par moi-même et le professeur Guy Bernard.
Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner.
Toutes ces femmes attendent pour être opérées ?
Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures.
Je crois que peut-être la question la plus profonde, c'est celle de savoir pourquoi ça doit continuer, pourquoi cette guerre. Il faut savoir que ce conflit est le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Plus de 6 millions de personnes ont déjà été tuées.
Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût.
L'ONU est en place maintenant depuis 2 décennies, mais malheureusement, la crise continue malgré sa présence.
Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants.
En fait, le viol est une véritable arme de guerre par son efficacité. En fait, on a les mêmes conséquences, les mêmes impacts que les armes classiques. Les groupes armés pratiquent des viols sur des femmes qui traumatise non seulement la victime, mais traumatise aussi son entourage. Et je ne vois pas comment on peut construire la paix sans justice. Comment on peut penser résoudre ces problèmes en disant, bon, on termine la guerre, on se serre la main, et puis les victimes, qu'est-ce qu'on en fait?
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en fait? C'est la troisième fois que je perds cette femme.
On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Il suffit pas de faire le bien à Denis. Faut le faire savoir.
Je crois que le cinéma, c'est un mode de communication très très puissant. Je crois qu'il y a eu beaucoup de documentaires par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Et là, c'est une fiction qui s'adresse à un autre type de public. Donc notre espoir, c'est que ça puisse augmenter la prise de conscience, la visibilité sur cette question qui est critique.
Critique, certes. Le Congo abrite 80% de la réserve mondiale de tantale. Où que nous soyons, nous avons tous un bout de Congo dans nos téléphones. Enfin, je voudrais vous parler d'une chose un peu plus légère. Il faut savoir raison garder. Rassurez-vous, la Banque européenne vous a conseillé de garder 70 à 100 euros en liquide chez vous. Elle ne cachait pas une info grave, une guerre en perspective ou quelque chose de ce genre, non. Les crises dont elle parlait renvoient aux mésaventures que viennent de vivre nombre d'entre nous, qui, lors d'événements extrêmes, n'ont pu utiliser leur carte bancaire faute d'électricité. C'est donc une simple précaution. Mais en même temps, côté écolo, c'est un bon message sur les choix des progrès et les dangers du tout électrique. Bon week-end et à la semaine prochaine. On s'arrête là, il s'est passé encore plein d'autres choses, mais sans doute vous avez eu le temps pendant les vacances de suivre peut-être un petit peu l'actualité. Notre invité de la semaine prochaine sera Éric Serva. Il est chercheur, hydrologue. Il a créé en janvier 2015 l'Institut Montpellierin de l'eau et de l'environnement. Ce pôle sur les sciences de l'eau, en 2019, s'est transformé en Centre international de recherche de l'UNESCO.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.